Ils sont ceux qui, dans quelques années, dessineront les plans de nos espaces paysagers et contribueront à l'amélioration de nos cadres de vie. Les étudiants de l'École nationale d'architecture et de paysage de Lille sont aujourd'hui inquiets et ils viennent nous expliquer pourquoi.
Bonjour Clément. Donc étudiant de troisième année à l'École nationale supérieure d'architecture et du paysage de Lille, nous sommes inquiets. Pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans que la réforme des études de paysagiste est en cours de reformation et aujourd'hui elle est appliquée par un décret et elle va se mettre en place dès la rentrée 2015. Mais aujourd'hui on a encore des incertitudes puisqu'on va passer d'un modèle de recrutement à Bac+2 puis après 4 années à un système qui devait être LMD, sauf que nous sommes sur une prépa en 2 ans après le bac, puis 3 ans. Donc on a des problématiques de resserrement de la pédagogie et des enseignements, mais également une incertitude sur nos 2 premières années de prépa qui ne seront pas reconnues, mais également des incertitudes sur le statut des concours, des modalités d'entrée, mais également des diplômes comme le statut d'une licence qui est pour aujourd'hui pas encore donné. C'est un certain nombre de points comme ceci sur lesquels on s'inquiète et aujourd'hui on essaye d'en parler et de débattre tous ensemble.
Donc vous êtes à l'École nationale donc d'architecture et de paysage de Lille, donc étudiant. Cette profession d'architecte paysagiste, c'est ça, hein, elle consiste en quoi ?
Alors justement, la profession d'architecte paysagiste n'est pas reconnue comme telle, puisque on ne peut pas s'appeler architecte paysagiste. Donc nous, on est des paysagistes concepteurs, et notre but de conception, c'est de pouvoir améliorer de façon très générale le cadre de vie des gens. Donc ça se passe à différentes échelles. Ça peut être à l'échelle d'un jardin, ça peut être à l'échelle d'un espace public, une rue, une place, un parc. Mais ça peut aussi être à l'échelle d'une ville, ça peut être à l'échelle d'une communauté de communes, ça peut être à l'échelle de toute une région. Et pour ça, on convoque... notre profession a la particularité de convoquer différents champs de disciplines qui sont la géographie, la sociologie, le milieu vivant, par exemple, et l'architecture, parfois. Et du coup, cette capacité à faire la synthèse fait la spécificité de notre travail. On a aussi donc différentes façons d'exercer notre travail, qui est à la fois la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire quand on fait un projet, quand on dessine un projet, ça peut être dans la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire dans la commande, quand les organismes, les élus proposent des projets, et ça peut aussi être dans les politiques territoriales, donc par exemple dans les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement par exemple.
Donc on peut dire que vous avez des responsabilités à venir, notamment pour améliorer notre cadre de vie et aussi pour créer de nouveaux espaces.
Eh bien oui, tout à fait, et de plus en plus avec les nouvelles problématiques, de développement durable, où nous on va pouvoir apporter un regard assez global sur ce genre de problématiques.
Donc les problèmes environnementaux dont on parle depuis un moment, est-ce qu'on vous les enseigne ? Est-ce qu'on vous donne des réponses à apporter à la société future ?
Eh bien, ça pourrait faire partie des nouveaux programmes, mais ils essayent en tout cas de nous faire prendre conscience des problématiques actuelles et auxquelles nous, on apporte aussi notre propre culture. Et c'est ça qui est intéressant pour l'instant dans la façon dont les études sont organisées, c'est qu'on arrive tous avec des cursus différents. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont fait architecture, des personnes qui auront fait des spécialités plutôt liées à l'environnement, des personnes qui auront fait des BTS aménagement paysager. Et de ce mélange en fait de formations, on arrive à dégager des choses assez intéressantes pour l'avenir.
Voilà, nous sommes toujours en compagnie des étudiants de l'ENSAP Lille. Donc cette école, elle a une reconnaissance nationale, puisque c'est le nom ENSAP, hein, il y a un national dedans. Ça vous donne aussi presque une obligation de mobilité par la suite par rapport à l'endroit où vous faites vos études ?
Ça dépendra un petit peu de...
Justement pour le LMD.
Ça dépendra un petit peu de l'endroit où il y aura du travail, mais le LMD permettrait justement de pouvoir faciliter les échanges en fait à différents niveaux. Par exemple, au niveau de la licence, si on souhaite faire un master dans une école qui correspond plus à notre champ de préférence de métier, on pourrait avoir une mobilité, en tout cas sur toute la France, qui serait favorisée à ce niveau-là.
Et on parle beaucoup de mobilité internationale. Est-ce que vous êtes amené ou pourriez être amené à faire des échanges dans des formations qui auraient lieu dans d'autres universités, d'autres écoles d'architecture et de paysage dans le monde entier, pourquoi pas ?
Pour le moment, c'est déjà le cas, mais c'est assez difficile en fait de mettre ça en place sans le LMD. Et c'est vrai que le LMD facilite la compréhension de tout, de toute l'Europe au moins, de ce que c'est notre cursus et de quel grade, à quel grade on reprend.
Le LMD exactement, c'est quoi ?
Licence, master, doctorat.
Voilà.
Qu'aujourd'hui on l'est pas totalement puisque, comme je vous avais dit en introduction, on est en 2+4 aujourd'hui. On va passer en 2+3. Mais on est en train de parler avec les ministères, avec les directions de toutes les écoles, parce que cette réforme, elle ne considère pas que les étudiants de Lille, mais les étudiants de Bordeaux, de Blois, de Marseille et de Versailles également. Et donc on essaye de faire passer ce grade de licence qui pourrait aussi nous apporter un prédiplôme sur notre cursus.
Donc là, vous êtes étudiant. Est-ce que vous êtes en rapport aussi avec des gens qui sont déjà professionnels, qui sont sortis depuis longtemps d'écoles comme les vôtres ? Comment ils ont vécu leur métier et qu'est-ce qu'ils en ont peut-être déduit sur ce qu'il faudrait améliorer ? Des personnes qui ont cette expérience, de personnes qui ont peut-être 20 ans déjà de travail, de paysage, d'architecture derrière.
C'est une question qui est pas facile à répondre parce que, enfin, aujourd'hui, en tout cas, on essaye d'y répondre au travers de débats, mais j'aurais pas une réponse toute faite à vous donner comme ça. On a plusieurs associations qui permettent de nous regrouper et justement de débattre entre nous, mais il n'y a pas une réponse directe à ça. Je pense que c'est les avis, c'est vrai que les différents enseignants, mais également des connaissances qui vont nous apporter leur expérience de cette profession qui a évolué en. Elle a bientôt 50 ans la maison mère est à Versailles. Donc on imagine bien que la formation a évolué depuis. On n'est plus, comme on le disait avant, sur les mêmes problématiques.
On pourrait donner quelques exemples précis de problématiques que vous sentez urgentes ?
Bah, aujourd'hui, on parle tout le temps du développement durable, mais le développement durable, on met
un grand mot.
C'est un gros mot dans lequel on met plein de choses. Aujourd'hui, nous, en troisième année, on travaille sur Rotterdam, par exemple, avec des phénomènes d'inondation. Donc comment imaginer la ville avec les inondations ? Donc comment le cadre de vie peut-être géré, comment l'habitat peut être géré avec des processus d'inondation.
C'est vrai qu'on parle des Pays-Bas, mais on pourrait parler aussi de certaines côtes de la région, pourquoi pas Nord-Pas-de-Calais, où il y a quand même des problèmes qui se posent.
À Dunkerque, bien sûr, oui. Les problèmes sont plus ou moins les mêmes.
Donc, comment vous pourriez intervenir là-bas ? C'est dans la construction même ou dans la façon dont on installe les sous-sols ou les fondations ? Je ne sais pas.
C'est des réflexions qui... On parlait d'échelle tout à l'heure, à l'échelle territoriale, d'essayer de réfléchir sur les digues, sur des zones d'inondabilité. C'est encore une question qui est assez actuelle avec ce qui a pu se passer... Mais oui, essayer de réfléchir à la ville, où s'implante la ville. Et c'est le travail du paysagiste aussi, de dire à certains endroits, enfin, s'il y a une inondabilité possible, de ne pas du tout s'installer là.
Donc vous pourriez être personne ressource dans le plan d'occupation des sols, dans les projets.
Complètement. Complètement.
Bon, c'est vrai que plutôt que d'attendre les accidents, il vaut mieux les prévoir, évidemment, sachant qu'on ne peut pas toujours prévoir la météo, ni les... modifications climatiques, quoi qu'elles sont à long terme, et qu'on commence déjà à en sentir les effets. Vous étudiez ça en permanence, ça vous préoccupe ou...
On l'étudie assez largement, mais bien sûr, il faut les prendre en compte. On est obligé. Il y a des études, clairement, sur la montée des eaux. On sait que le paysagiste a aussi un rôle de travailler sur le très long terme. On parle de renouvellement urbain des fois qui sont des échelles très courtes sur comment réaménager un centre-ville. Mais on a des questions aussi de très long terme et réfléchir dans 100 ans comment la ville se développera et comment on vivra. Donc c'est des questions où on est obligé de penser aux aléas climatiques.
Voilà, donc on l'a compris, l'anticipation est au cœur de votre profession. Voilà, donc on va revenir un peu aux événements aussi qui nous rassemblent aujourd'hui, j'allais dire, puisque à 18h il y a quelque chose qui est prévu et qu'à 13h il y avait également quelque chose que vous avez organisé. Qui peut nous parler de ça? Alors allons-y.
Donc bonjour, moi c'est Pauline, aussi étudiante en paysage à Lille. Donc ce soir, on organise un débat sous la forme de l'ouverture de notre cafette, donc dans les murs de notre école à 18h. On vous invite à venir voir notre exposition qui est dans le hall de l'école avec deux planches introductives qui expliquent justement cette réforme et l'action des étudiants qui a commencé environ en décembre. Bordeaux, en fait, les étudiants de Bordeaux ont commencé une mobilisation de grève pour justement montrer qu'ils étaient contre cette écriture de décret. Donc là, le décret a un peu évolué, mais les actions continuent parce que c'est, je pense, aux étudiants de finalement parler du contenu de la formation, comme on a parlé des problématiques qui évoluent toujours, quoi.
Donc oui, moi je suis Léa, également étudiante en paysage en troisième année à l'école d'architecture et de paysage de Lille. Donc pour revenir un peu sur l'événement de 13h qui s'est passé ce midi, c'était une action commune en fait aux trois écoles, donc Lille, Bordeaux et Blois. Donc au début on avait parlé, c'est vrai, d'une manifestation dans un lieu directement à Lille. Effectivement, c'est quelque chose qui est assez difficile à mettre en place. Du coup, on s'est rabattu sur un objectif qui s'est passé effectivement au sein de nos différentes écoles. Là, c'était par le biais de la photographie, où on a fait des photographies avec tous les étudiants en paysage de chaque école. Et voilà, où ça sera effectivement des moyens d'expression qui vont être publiés, qui vont être montrés au ministère, qui vont un peu porter nos revendications et nos mécontentements. Et pour parler de l'événement de 18h, comme le disait un peu Pauline, c'était l'occasion aussi de faire donc un débat, aussi une sorte de vernissage de l'exposition des travaux qu'on fait, nous, étudiants, à l'école de paysage, de montrer l'ensemble de la formation sur 4 ans comme elle est actuellement. La progression aussi, on a parlé des échelles tout à l'heure, donc effectivement, en première année, on est sur une échelle beaucoup plus petite, beaucoup plus restreinte, avec des projets pas plus simples, mais voilà, moins complexes, on va dire. Alors qu'en quatrième année, on est sur une forme d'autonomie qui nous amène à penser sur des territoires beaucoup plus vastes. Et ça, c'est très important de communiquer autour de ça, ne serait-ce que dans notre école, puisqu'on est une école d'architecture et de paysage. Et même les architectes ne savent pas toujours finalement ce qu'on fait. Donc c'est très important à ce stade de communiquer autour de la profession, mais aussi des études de paysage.
Voilà, donc le rendez-vous est donné, c'est tout à l'heure. Hein. Là, il est 16h48, on va dire. C'est à 18h ce soir, hein, dans une petite heure, une bonne heure, on va dire. Et c'est à l'école d'architecture donc et de paysage de Lille, qui se situe où exactement?
Alors du coup, c'est à Villeneuve-d'Ascq, au métro Villeneuve-d'Ascq, Hôtel de Ville. Donc c'est très proche du métro, à 2 minutes à pied. Et donc ça se passera... donc l'exposition est à côté de la cafétéria, qui est un lieu un peu symbolique dans l'école. Et voilà, on a prévu donc un débat, peut-être aussi un film, sous la forme d'un buffet, qui se passera dans ce lieu symbolique qui est la cafétéria.
Donc c'est ouvert à qui ?
Alors, à tout le monde. On n'a pas de restrictions. Alors, évidemment, on s'attend à voir beaucoup d'étudiants ou de professeurs de l'école. Mais le principe, c'est de communiquer le plus possible à tout public. Donc, tout le monde peut venir. Et voilà.
Voilà, donc, quand on sort du métro Hôtel de Ville, on prend où après ?
Alors, vous prenez la sortie de bus, donc là où sont les bus. Vous continuez jusqu'à la rue. Enfin, le grand, c'est pas un boulevard, mais... La rue Verte. Vous prenez sur la gauche et tout de suite, de toute façon, c'est indiqué, il y a des balisages au sol, il me semble. sur la gauche, je sais pas, de 200 mètres, quelque chose comme ça, il y a un bâtiment noir et rose avec le bandeau de l'ENSAP.
Cette école, elle a été créée quand je parle des locaux.
Dans les années 50.
D'accord. Ouais. Et est-ce que l'esthétique extérieure vous convient? Est-ce que vous pensez éventuellement un jour rénover aussi les murs de cette école, faire des propositions?
Depuis les années 50, elle a déjà eu deux extensions, avec celle qu'on appelle la banane, qu'on voit le plus depuis la rue, et ensuite une autre extension qui est noire et assez imposante. Après, nous, on aimerait peut-être voir les alentours de l'école dans son contexte paysager, justement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est assez perméable. Enfin, on peut passer en dessous, on peut... Finalement, elle n'est pas clôturée, donc je pense qu'elle est assez bien inscrite.
Donc cette ville de Villeneuve-d'Ascq, ville nouvelle, a été conçue il y a relativement peu de temps, enfin je ne sais plus, 30 ans ou quelque chose comme ça. Est-ce que pour vous, les principes de son aménagement à l'époque, puisque c'était de fusionner différents villages, on va dire, pour en faire une ville et donner un peu cette fluidité aussi de déplacement dans la ville et ces espaces verts qui sont quand même assez intégrés, est-ce que pour vous, c'est un modèle de ville? Est-ce que c'était, ou est-ce que c'est, je veux dire, à une certaine époque, une façon de réaliser les choses? Est-ce que vous auriez d'autres projets, sinon pour Villeneuve-d'Ascq, peut-être pour d'autres villes?
C'est vrai que pour l'époque, puisqu'elle a été construite dans les années 70, pardon, mais pour l'époque, c'était une utopie, oui, d'avoir tous les flux distribués. Donc ça fonctionnait peut-être à ce niveau-là, en rapport avec le centre commercial à côté, etc. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une reconsidération d'avoir plus d'imbrication entre ces éléments, que ce soit moins les différents flux, par exemple le cheminement piéton, ensuite le boulevard, que tout soit séparé, mais avoir plutôt un échange. Donc je pense que au niveau du boulevard qu'on a en arrière, qui a été construit récemment, avec le grand stade Pierre Mauroy, il y a plus cette volonté de continuité entre les espaces.
Est-ce que les époques amènent un regard différent sur ce qu'on doit construire dans votre domaine?
Oui, il y a toujours des mouvements, des modes en ce moment. Je pense que c'est le mouvement d'avoir des noues paysagères, de mettre en valeur l'eau, les végétaux dans le paysage. Oui, c'est sûr qu'on est conditionné par une mode, mais on essaye de s'en affranchir, ou de les critiquer, mais au moins de qu'elles aient leur raison d'être, que ce ne soit pas juste une décoration.
Il y a certains pays où on construit, où on construisait pour, on va dire, 10 ans, 20 ans ou le temps d'une vie. Et puis, en Europe, par exemple, on construit à long terme. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte, ce temps d'utilisation, ce temps d'existence des lieux, et aussi de leur aménagement possible?
Oui, dans un projet de paysage ou même d'architecture, il faut toujours penser aux différentes phases. On a le court terme, ce qui va satisfaire les habitants dans un moment donné, mais après, il faut toujours penser à ce que ça va devenir dans le futur, comment ça va évoluer. Par exemple, les friches industrielles qu'on a aujourd'hui à Lille, enfin dans la région, c'est très important de voir pourquoi elles sont devenues friches. C'est dû à quelque chose d'économique. Donc oui, pour fabriquer du paysage, il faut voir ce qui finance aussi le territoire, comment est occupé le sol.
Si on prend le bassin minier, l'ex-bassin minier par exemple, où il y a eu des financements du FEDER, il me semble, pour réaménager tous ces espaces, ces paysages industriels qui ont été détruits, j'allais dire rayés de la carte, pour en faire quelque chose d'autre, du moins de façon visible, sachant qu'il y a encore des choses en dessous qu'on n'ose pas trop forcément dévoiler, mais au-dessus ça a l'air beaucoup plus vert, beaucoup plus beau, etc. On est quand même dans une forme de progrès esthétique et aussi, par rapport à la nature, d'une, on va dire, de réintroduction de nature dans notre environnement proche.
Oui, pour les terrils, bon, il y en a énormément dans le bassin minier. Donc, il y a eu différentes interventions. Il y a différents exemples, on va dire. Donc, il y en a un, le terril du Riolet, qui se trouve près de Marchiennes. Celui-là est très intéressant parce qu'il y a toute une volonté écologique derrière de mettre en valeur justement ce sol de charbon. Et finalement, il y a des essences méditerranéennes et qui aiment le feu, qui aiment la chaleur, qui poussent en fait. Donc, et l'aménagement permet aussi de s'y balader, et c'est une reconsidération de quelque chose qui était une friche industrielle qui était moche, en l'actualisant en fait auprès des habitants.
Donc le bassin minier du Pas-de-Calais est devenu classé UNESCO. Hein, Est-ce que la préservation de ces sites, pour vous, c'est quelque chose de nouveau et de prendre en considération? Et qu'est-ce qu'on peut faire justement avec ce label, on va dire, pour que les habitants y vivent mieux?
Pour ce qui est de la préservation des sites, c'est une question... Parce qu'on peut dire, oui, c'est important de classer un site pour qu'il soit reconnu, mais ensuite, il est reconnu à une échelle qui est peut-être trop grande par rapport aux habitants. Enfin, est-ce qu'ils en ont les conséquences directement pour eux ou pas? Enfin, là, c'est des questions, oui, très larges. Mais dans tous les cas, je pense que ça peut être positif, parce qu'au moins, ça montre... que c'est une question qui est prise en compte.
Donc il y a quelques mois, je suis allé faire des photos dans cette zone-là, et notamment des champs magnifiques à perte de vue, voilà, qui semblaient protégés justement de toute nouvelle industrie, de tout problème de même esthétique, on va dire, qu'à perte de vue, on voyait des jolis champs, un peu comme Van Gogh, tous les champs protégés de blé, etc. On retrouve cet espace balisé justement pour qu'on n'en fasse pas n'importe quoi. Et les gens qui passaient en voiture, ils me faisaient des grands signes, bravo, faites des photos. Enfin, ils étaient quand même fiers de ça. Est-ce que aussi, ça peut redonner aux gens l'idée que de vivre quelque part, c'est bien aussi quand on pense à ce quelque part, comment on l'organise, comment on le construit, voire comment on le réaménage?
Oui, bah c'est notre travail, justement, d'aménager les paysages, mais de pas forcément le montrer qu'ils sont aménagés, mais que ce soit intégré, que les gens soient contents d'y être, heureux d'être dans leur cadre de vie, enfin, qu'ils soient remis en valeur. On parlait de Dunkerque tout à l'heure, et c'est vrai qu'à Dunkerque, c'est ça aussi. C'est une ville très industrielle, et l'idée, c'est de pouvoir mettre en valeur leur paysage pour que les gens y restent, tout simplement, et soient fiers de leur ville, fiers de leur paysage.
Ce qui est très important, ce qui est très important dans le paysage aussi, c'est exactement ça, c'est la relation entre les gens. Comment ils perçoivent le paysage, quelles relations ils ont par exemple avec la nature, avec un type de ville, par exemple les cités minières, et ce qui s'en dégage en fait de cette relation. Est-ce qu'il y a une situation de rejet, une situation d'acceptation, une situation de... Et toutes ces choses-là, c'est des choses avec lesquelles on travaille et sur lesquelles on travaille. C'est-à-dire que des fois, on va chercher à les modifier, mais des fois, on va chercher à accentuer par exemple une relation qui se passe très bien dans un projet d'aménagement. Par exemple.
Alors, c'est vrai que les gens, à une certaine époque, n'étaient peut-être pas trop exigeants sur leur environnement, qu'ils le deviennent plus, ou que la société nécessite aussi qu'on réfléchisse aux problèmes sous d'autres angles que directement l'intérêt économique. Je pense aux sites miniers, comme ils ont été construits un peu à l'arrache.
Ce qui se passe aussi aujourd'hui, c'est que les gens choisissent l'endroit où ils habitent, où ils vont pouvoir... Pas toujours, parce qu'il y a des raisons économiques des fois qui font que non, mais souvent les gens peuvent choisir maintenant où ils habitent. Il y a une mobilité telle aujourd'hui en transport, la voiture, le bus, même l'avion. Donc ce qui fait qu'il y a une importance de l'endroit où ils vont décider de s'installer, où ils vont décider de passer quelques années, et ils y passeront peut-être un an, deux ans, alors qu'avant ils y passaient 15 ans. Donc il y a quelque chose comme ça qui se passe aujourd'hui, qui est une des nouvelles problématiques avec lesquelles on doit aussi travailler. Qui fait que les personnes qui habitent à un endroit ne sont pas forcément celles qui y habitaient avant et qui y habiteront demain. Donc on a cette question de la relation avec le paysage qui ne peut pas être universelle, mais qu'on doit quand même essayer de provoquer avec les personnes qui arrivent dans un endroit.
C'est vrai, j'ai rencontré un maire d'un petit village de la région de la Bassée où il y a eu la ligne de front de la guerre 14-18 et qui m'a dit que son village était carrément rayé de la carte, hein, pratiquement à l'époque, et qu'il restait un quart de ses habitants qui sont revenus là. Et donc depuis ce temps-là, le village a retrouvé son nombre d'habitants d'avant. Et donc il a pu aussi peser sur comment attirer les personnes et comment justement l'environnement tel qu'il a été reconstruit a permis au village d'être à nouveau attractif.
Là, c'est des paysages un peu particuliers, c'est des paysages de guerre, c'est des paysages qui ont une histoire, un patrimoine très très fort et auxquels les gens sont certainement très attachés. Après, il y a des endroits, par exemple, des plateaux agricoles, paysages sur lesquels je travaille en ce moment pour mon diplôme, auxquels les gens ont du mal à accorder une importance, une valeur, parce que c'est comme ça, c'est de la production. Donc il y a des endroits aussi qui sont peut-être moins valorisés, par exemple par des classements, qui sont tout aussi importants, parce que des gens y vivent, des gens y travaillent, et c'est le paysage quotidien, peut-être, qu'on pourrait amener là.
Est-ce qu'on peut aussi compter sur les artistes, je pense aux photographes, justement pour faire prendre conscience aux gens de la beauté de leur propre paysage, parfois c'est pas forcément ce qu'ils voient, hein, l'endroit où ils sont, ils le voient pas au quotidien, ou parfois ils ont l'impression qu'il est encore comme il était il y a 20 ans et qu'il a été modifié depuis, mais ils ont encore ce schéma un peu ancré.
Alors sur les photographes, il y a des choses qui s'appellent les observatoires photographiques, par exemple, au sein de différents acteurs, par exemple les CAUE ou les DREAL, qui justement prennent des photos au même endroit à différents temps. Donc ça, c'est souvent des documents qui sont consultables, donc pour prendre conscience. Et puis oui, au niveau de la demande en art, c'est tout à fait des révélateurs. Nous, on peut faire, par exemple, en tant que paysagiste, coordination entre, voilà, on va mener une action plutôt culturelle, artistique, et ça permet sous forme parfois plus ludique, de chasse au trésor par exemple, on a déjà croisé ça, où les gens redécouvrent, mais de façon un peu inconsciente, c'est-à-dire sans se dire « oui, bon, on va nous parler de là où on habite, ça va, on connaît », et du coup finalement par un petit déclic qui peut arriver à des moments, ça permet ça, effectivement, l'art est un des moyens, mais nous ne sommes pas des artistes.
J'ai rencontré une artiste qui a travaillé sur la filière du lin et de son exportation. Et donc, elle avait fait des photographies, des cultures de lin sur plusieurs, sur plusieurs saisons. Et donc, on voyait bien ces paysages qui évoluaient et aussi cette filière, puisqu'après, elle allait jusqu'au port pour l'exportation de ce lin. C'est assez beau, d'ailleurs, son travail d'artiste sur des plaines magnifiques. Voilà. Prendre conscience de la beauté de nos paysages Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même pas mal.
Oui.
Est-ce que vous considérez que le Nord-Pas-de-Calais commence à avoir une certaine attractivité en termes de paysages ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore pour améliorer les choses ?
Alors, il y a beaucoup de requalification des friches. En ce moment, c'est un sujet, on en parle pas mal avec la désindustrialisation, pardon, il y a un petit moment, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de traces de ce paysage très industriel, en fait, à Lille. Là, on le voit très bien avec la gare Saint-Sauveur, par exemple. Bon, il y a un très beau projet, enfin beau, je sais pas, mais en tout cas un gros projet de paysage qui est en train de se faire. Et je pense que ce sur quoi on va le plus en ce moment, enfin la tendance, c'est d'avoir une sorte de mixité entre les logements, une partie de logement, des parties tertiaires, mais aussi une place de plus en plus importante qui est observée au niveau végétal, dans tout ce qui est parcs et jardins, qui sont des lieux, on va dire, plus institutionnels. Et je pense que c'est important aussi de garder une partie de la friche ou des traces historiques du patrimoine, en fait. Voilà. Faire ressortir cet aspect-là du patrimoine dans les projets du Nord-Pas-de-Calais, c'est quelque chose qui peut être vraiment une belle plus-value.
Bien, merci. Je pense qu'on a mieux cerné votre future profession. Et on vous souhaite bonne continuation, bon courage et bonne chance.
Merci.